Est-ce pas la bienvenida?
Si, yo creo.
C'est pour la bienvenue. Nous parvenons sur la place du village où trône une magnifique petite chapelle que les habitants sont en train de repeindre, toute rose lacérée de blanc et de bleu. Et en sortant de la chapelle, il y a un charpentier qui est en train de prendre des mesures pour construire les croix.
Un dromadaire sur l'épaule, Cyril Desprats et Monsieur T.
Bonjour à tous, merci de nous suivre au Chiapas. Le Chiapas qui depuis 1983 déjà vit entre la guerre et la paix, ou plutôt subit, comme on dit, une guerre de basse intensité, c'est-à-dire une guerre sans confrontation directe, faite d'assassinats, de coups de main, d'exactions, une guerre d'usure, une stratégie de la terreur où alternent les déploiements de forces et les opérations de groupes paramilitaires. Le chiffre est peut-être exagéré, mais il y aurait eu jusqu'à 70 000 soldats au Chiapas, un tiers des forces armées mexicaines, répartis dans une petite centaine de camps et dans des villages, là où vivent les Indiens. Pour tenter de protéger les civils, les villageois de la forêt Lacandon, et d'ailleurs, plusieurs ONG sont présentes sur place, dont une Suisse, c'est Peace Watch in Switzerland, présente depuis 1997 au Chiapas et qui a envoyé, depuis le début de l'année, 13 observateurs et observatrices sur place. On appellera un de ces bénévoles tout à l'heure, il s'appelle Laurent Vildaber, il est étudiant, il a 22 ans, il est au Chiapas depuis 2 mois et demi. Et puis, avec nous également, la coordinatrice des projet Chiapas et Guatemala de Peace Watch Switzerland, Andrea Raima, bonjour.
Bonjour, merci d'être.
Merci d'être avec nous ici. Le Chiapas, vous y êtes allé plusieurs fois, vous le connaissez, 5-6 fois, vous me l'avez dit, depuis plus de 20 ans. Alors pour Peace Watch Switzerland, c'était les 2 dernières années, vous rentrez d'ailleurs d'un voyage de ce printemps au Chiapas, mais vous y êtes allé plusieurs fois avant à titre privé. Qu'est-ce qui vous a attiré, qui vous fait retourner dans cette région?
Alors ce qui m'a attiré en premier, c'était la culture maya, les sites archéologiques, la beauté des sites archéologiques. En 83, j'ai eu la chance d'aller avec un copain. On était 4-5 copains et on est parti en voiture. On a sillonné tout le Mexique. On avait 19 ans à l'époque. Et on est arrivé jusqu'au Chiapas où j'ai découvert San Cristobal, les indigènes, leurs habits colorés, la beauté de ces personnes. Également aussi les paysages autour de San Cristobal qui sont absolument magnifiques.
Mmh. Et la répression contre les Indiens, elle était déjà présente en 1983, lors de votre premier voyage. On sentait déjà une tension.
On l'a pas vu directement. Par contre, c'était l'époque où il y a eu les réfugiés guatémaltèques qui avaient fui les massacres des années 80. Et donc, il y a eu quand même, on a vu l'armée qui nous a fortement conseillé de partir et de pas rester dans la région. Donc, on était des touristes.
Mmh. Andrea Raiman, vous restez avec nous. On va écouter le reportage d'Alain de Valpo parce que vous, Alain, vous avez voulu vous rendre compte par vous-même de cette présence militaire au Chiapas. Comment cela se passait entre les soldats et les habitants? Et vous êtes allé dans un village qui avait été occupé par l'armée.
Oui, il y avait eu des soldats. On était dans une période préélectorale et le gouvernement, quelques semaines plus tôt, avait adoucir la situation, avait dit qu'il allait retirer tous les militaires du Chiapas. Une ONG mexicaine basée à San Cristobal, Fray Bartolomé de las Casas, une des plus grosses ONG de San Cristobal, a voulu vérifier sur place si effectivement c'était le cas. Et donc ils ont organisé une mission qui est conduite par Blanca Isabel Martinez. Et c'est avec eux que je pars dans le nord du Chiapas. Là, on va dans une région montagneuse. C'est là que notamment on cultive du café, pour aller à la rencontre de ces gens et leur donner la parole.
Et vous êtes parti comment?
Donc on est parti à plusieurs voitures et avant d'aller à la rencontre des communautés, Blanca a souhaité aller à la rencontre des militaires. Il y a un grand camp qui s'appelle le camp de Mahomut et c'est là que nous nous rendons en premier.
Ah,
Esta unidad vende pescado proveniente de la mejor calidad. Pescado fresco, pescado rico y nutritivo. Compre con nosotros que se lo traemos al mejor precio. Estamos cerca de su casa. Compre la cantidad.
Blanca, nous sommes à Mahomout, il y a ici un campement militaire. Vous proposez que nous allions les voir, que voulez-vous leur demander?
Bueno, lo que pasa es que hace dos meses el secretario de Gobernación informó que el ejército había salido de Chiapas y que las situaciones que originaron la presencia aquí y el conflicto ya habían terminado y que por lo tanto el ejército salía. Entonces vamos a confirmar si es cierto o no.
Au moment où Blanca me parle, nous voyons un camion militaire qui passe. Blanca explique qu'il y a deux mois, au mois de mars, le pouvoir mexicain indique que le conflit au Chiapas était terminé et que tous les militaires allaient partir. Donc Blanca veut vérifier ça. Vous pensez qu'ils vont nous laisser entrer, qu'ils vont répondre à nos questions?
No sabemos, no siempre nos reciben. Lo normal es que no nos reciban, pero nosotros seguimos intentando. Porque cualquier comentario que nos hagan para nosotros es importante. Ellos saben que andamos observando. Vamos a ver.
On ne sait jamais avec les militaires. Parfois oui, parfois non. Mais il faut de toute façon essayer, explique Blanca. Et peu importe, de toute façon, la manière dont ils vont nous recevoir est intéressante. Yeah. Je monte derrière, hein. Ok, yo voy atrás. Ah, caminando. Ah, on y va en marchant. On y va en voiture. Alors, la base est constituée de 6 baraquements, le tout entouré de fil barbelé. Au-dessus flottent bien sûr les couleurs du drapeau mexicain. Depuis cette base, on peut observer un panorama magnifique. La région ici est montagneuse, boisée, verte, malgré la fin de la saison sèche. Les pluies ne font que commencer et pourtant le panorama est particulièrement vert. Rien à voir avec ces images qu'on peut avoir du Mexique, d'un Mexique aride, désertique qu'il y a dans le nord du pays. Ici, on est en zone tropicale, on sent l'influence tropicale. Blanca, j'ai éteint le magnétophone et j'ai caché mon micro pendant que vous avez discuté avec les militaires. C'est préférable. Les militaires n'aiment pas trop être enregistrés et n'aiment pas trop la présence de journalistes. Cuando usted estaba hablando con el militar, yo apagué el micrófono. Mejor, ¿no? Los militares no les gustan mucho los periodistas.
No les gusta hablar ni con civiles ni con periodistas, ¿no?
Les militaires mexicains n'aiment parler ni avec les civils, ni avec les journalistes. Par contre, eux nous filmaient pendant que nous parlions. Pero ellos no grababan.
Sí, esa es una práctica que tienen. Bueno, ya tenemos años viviendo esto. Cada que pasas tú frente a un campamento, cuartel o retén militar, te filman. Y si tú les tomas fotografías o también los filman, se molestan. Y normalmente te piden que apagues tus cámaras, ¿no?
Oui, alors Blanca explique que c'est une pratique commune, que ce soit à un barrage devant un camp de militaires, à chaque fois ils nous filment, et si nous, de notre côté, on les filme, alors ils se mettent tout de suite en colère, et en règle générale, ils demandent à ce que les équipements soient éteints.
Bueno, yo le pregunté qué sabía de las declaraciones del secretario de Gobernación sobre que las circunstancias de excepción habían terminado y que el ejército no tenía que estar acá. Él me dijo que él no estaba enterado, que apenas el día de hoy se había enterado de esto, pese a que las declaraciones fueron desde el 15 de marzo. Y que por un lado, pues una cosa era lo que dijera el secretario de Gobernación y otra la que dijeran sus mandos militares. Que si el secretario de Gobernación decía eso, pues quién sabe por qué lo decía, pero que a él sus mandos no le habían dicho nada y por lo tanto no podían salir del campamento.
Donc le commandant a expliqué qu'il venait juste d'arriver il y a quelques jours prendre le commandement de cette base et que cette nouvelle du départ des troupes militaires du Chiapas est quelque chose qu'il venait d'apprendre aujourd'hui même. Puis il expliquait aussi que entre la décision politique du gouvernement et ce que lui disent ses supérieurs, il y a souvent beaucoup de différences. Vous pensez qu'il était de bonne foi ou vous croyez qu'il vous a menti? ¿Usted piensa que era habló de buena fe?
Yo creo que más bien estaba medio desubicado el militar, como que no sabía mucho de qué se trataba y tenía que ser cuidadoso de qué nos decía, porque él bien sabe que la situación que vivimos es tensa y que hablar con un centro de derechos humanos pudiera traerle problemas. Entonces lo vi más bien cuidadoso y temeroso y evasivo.
Blanca explique qu'elle l'a senti très évasif dans ses réponses. Elle a senti qu'il avait peur et qu'il a pris énormément de précautions pour lui répondre. D'après Blanca, les militaires n'aiment pas trop dialoguer avec les défenseurs des droits humains. Pour cette raison et pour ne pas avoir de problème ultérieurement, il est resté très évasif dans ses réponses. Blanca, nous nous apprêtons à repartir. Prochaine étape, quelle est-elle ? Próxima etapa, ¿dónde vamos?
Vamos a intentar visitar otras tres comunidades que vivieron sobre todo la acción de los paramilitares. Más que de la presencia directa en sus tierras de campamentos militares, fue de los grupos paramilitares. Y vamos a ver cuál es su opinión sobre si ya se resolvió el conflicto y si ya la paz está más cerca.
Nous allons visiter, si nous avons le temps, trois communautés qui ont des problèmes plus particulièrement avec les paramilitaires et nous allons leur demander si elles pensent que effectivement le conflit est terminé et qu'aujourd'hui il est possible dans le Chiapas de vivre en paix. Quels sont les noms de ces communautés?
Vamos a Canolal, a Camino Chimich, con una comunidad que se llama Habitantes de la Comunidad La Esperanza, a Fracción Guadalupe también, y bueno, además está otro grupo por otra zona de aquí de Los Altos también visitando otras comunidades.
Donc il y a Canolal, La Esperanza y Guadalupe.
Vamos, avancemos.
Nous avons quitté la route bitumée. Nous sommes sur la cime d'une montagne et de part et d'autre, nous pouvons observer un paysage fabuleux avec des petits villages dispersés de ci de là. Sur les flancs des collines, beaucoup de bois, d'arbres, et perdus dans cet univers vert, on voit luire comme des miroirs. Ce sont les toits le plus souvent fabriqués en tôle ondulée, c'est ce qu'il y a de plus économique. Toits qui se reflètent aujourd'hui sur le beau soleil du Chiapas. Autour des maisons, souvent des bananiers, des potagers et puis aussi beaucoup de maïs. Le maïs étant l'aliment de base des paysans mexicains et notamment pour fabriquer les tortillas que l'on mange à tous les repas. Nous sommes ici sans doute entre 1500 et 2000 mètres d'altitude dans une région majoritairement peuplée d'indigènes. L'ethnie la plus importante dans cette région est l'ethnie Tzotzil. On peut aussi observer des champs de café, le café étant la principale exportation et source de devises pour les paysans indigènes du Chiapas. Autre source de devises, l'artisanat et notamment les tissus et habits tissés par les femmes indigènes. Des femmes indigènes capables de tisser un peu dans toutes les conditions. On les voit de temps en temps dans les champs, à la fois en train de surveiller leurs troupeaux et tisser leur ouvrage. Elles attachent une partie de l'ouvrage à un arbre et elles passent une courroie dans leur dos. Et c'est ainsi qu'elles tendent leur métier à tisser, peut-on dire, et qu'elles peuvent travailler et tisser. Bienvenidos al campamento de la Sociedad Civil Las Abejas de Canolal. Un panneau nous indique que nous sommes quasiment arrivés. Il faut que nous puissions nous garer et l'accès à la communauté se fait à pied. La bienvenida.
Sí, yo creo.
C'est pour la bienvenue. Nous parvenons sur la place du village où trône une magnifique petite chapelle que les habitants sont en train de repeindre, toute rose lacérée de blanc et de bleu. Et en sortant de la chapelle, il y a un charpentier qui est en train de prendre des mesures pour construire les croix.
Arrivé en fofard et en pétard. C'était des pétards ou c'est des coups de feu qu'on a entendus?
Ce sont des pétards. En fait, lorsque nous arrivons, cela fait plusieurs mois que la communauté est en train de reconstruire l'église. Là, les habitants sont en train de poser les dernières touches de couleur. Et le lendemain, ce sera la grande inauguration.
Et donc, vous allez dans ce village pour une réunion avec cette ONG, Fray Bartolomé, avec Blanca, qui dirige cette ONG. Comment ça se passe, cette réunion avec les villageois?
Quand nous arrivons, les villageois sont prévenus. Donc tout le monde arrive, enfin là dans le cas présent, en dehors de ceux qui sont affairés à l'église. Nous nous réunissons en général dans un local public, ça peut être la salle de classe le plus souvent. Là les gens, il y a une séparation très nette, les hommes s'installent d'un côté, les femmes de l'autre. Et s'ouvre un débat qui s'ouvre en langue indigène. Et pour cela, nous accompagne un interprète qui est Augustine. Donc voilà, c'est un jeu de questions-réponses. Il y a une sorte de questionnaire qui avait été établi par l'ONG. Il y a une sorte de questionnaire qui a été établi par l'ONG. Et Blanca donne la parole à tour de rôle à chacun.
Las mujeres de las abejas que no iban a buscar a los militares las respetaban a ustedes, compañeras, no les decían nada a los militares.
La réunion se poursuit, Blanca se tourne vers les quelques femmes qui sont là, on leur demande si leur rapport avec les militaires était correct.
Mais là, je suis pas 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 là, je suis
Cette femme explique que les femmes de las abejas n'ont jamais été demandées quoi que ce soit aux militaires. Pour leur part, les militaires, quand ils se croisaient sur la route, n'avaient pas d'attitude particulièrement agressive et que finalement tout le monde s'ignorait.
Se encontraban a veces a ejército o a policías y los dejaban caminar libremente, que ustedes fueran a donde tenían que ir.
Blanca veut savoir si lorsqu'elles allaient laver leur linge ou lorsqu'elles se rendaient au champ, si elles pouvaient y aller tranquillement.
Violen a que nos agarren, a que nos maten. Por eso no, nunca salimos nosotras como mujeres, solamente los hombres.
Augustin traduit en ce que vient de dire cette femme. En fait, les femmes restaient cloîtrées chez elles. Elles avaient peur de se faire violer, d'être battue, et donc elle restait la plupart du temps chez elle pour ne pas avoir de problème avec les militaires présents dans la communauté.
Antes de que estuviera aquí el ejército y la policía sectorial, había muchos bolos, se vendía alcohol. ¿Cómo estaba eso del alcohol?
Blanca demande si avant l'arrivée de l'armée et de la police, il y avait beaucoup de vols dans la communauté, si on consommait de l'alcool.
Sí, había mucha venta de alcohol, pero cuando se hizo el acta de acuerdo mutuo, entonces se respetó un poco, se ha disminuido la venta de alcohol.
Oui, pendant la présence de l'armée, beaucoup d'alcool se vendait dans la communauté. Ensuite, il y a eu un accord entre les habitants, la vente et la consommation ont diminué.
En ese tiempo en que el ejército y la seguridad pública estuvieron aquí encima, aumentó el consumo de alcohol, se vieron otras cosas como droga, como prostitución o otros problemas.
Est-ce que durant la présence dans la communauté de l'armée, vous avez observé une augmentation de la vente d'alcool, la présence de drogue par exemple?
Hubo mucha venta de alcohol y la policía se emborrachaban, entonces, y también los militares. La venta de drogas, eso no mentimos, no podemos echar mentiras, no lo vimos.
Il y a eu beaucoup de beuveries, militaires et policiers buvaient abondamment d'alcool. Par contre, nous n'avons jamais entendu parler de drogue. Il faut aussi préciser que pendant ce temps, la prostitution a beaucoup augmenté.
Mujeres que se formaron parte mal acostumbraron de la prostitución. Pues aquí mujeres, algunas mujeres.
Les femmes qui se sont habituées à vivre de la prostitution regrettent le départ de l'armée et de la police. C'était de l'argent gagné facilement. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et ces femmes-là ont pleuré le départ des militaires.
Había gente de la comunidad que sí quería la presencia de los militares, nada más porque les daban dinero, por ejemplo, por esto.
Pourquoi des gens de la communauté souhaitaient la présence des militaires? Pour avoir de l'argent, comme dans ce cas?
Es porque las mujeres ya saben que ya tienen un buen negocio. Y además aprovecharon de construir sus tiendas de abarrotes.
C'est parce que ces femmes savent qu'elles peuvent gagner facilement de l'argent, qu'elles ont construit des petits commerces, des épiceries. Et donc ce n'est plus la peine de partir travailler dans les champs puisque elles gagnent de l'argent facilement avec les militaires.
Bueno, quizá nada más para terminar, yo quisiera que me nos compartieran su palabra. Si nosotros hablamos con el secretario de Gobernación de lo que él dijo de que ya se habían resuelto las causas que originaron el conflicto.
Pour terminer, Blanca demande aux personnes présentes de donner leur avis quant à cette lettre du gouvernement expliquant que la paix était revenue au Chiapas. Qu'en pense-t-il?
No es cierto lo que dijo. Nosotros siempre tenemos miedo.
Le gouverneur est un menteur, ce qu'il n'a dit n'est pas vrai, nous avons toujours peur, nous avons des champs éloignés où nous avons peur d'aller. C'est un menteur. Nous avons toujours peur car les paramilitaires peuvent circuler de manière tout à fait libre, il n'y a donc pas de justice.
Pues les queremos agradecer mucho este ratito, que ya sabemos que tienen mucho trabajo porque mañana más van a estar de fiesta, pero les agradecemos que nos hayan dado posibilidad de platicar.
La réunion est terminée. Blanca remercie tout le monde pour le temps que les gens ont consacré à répondre à tout ce questionnaire, sachant qu'il y a énormément de travail à faire en raison de la fête de demain. De l'église. Comment vous appelez-vous? Comment c'est Liama?
Je suis Mariano.
À côté de l'église qui va être inaugurée demain, je rencontre Mariano sous son chapeau de paille. Mariano a les dents en or qui brillent. Comment va se passer la cérémonie d'inauguration demain? Comment se va passer la cérémonie d'inauguration de l'église?
Mañana, solo nada más van a inaugurar la iglesia. Y cuando ya está terminando la inauguración y van a invitar a la gente, va a dar la comida.
Demain, après l'inauguration, la cérémonie d'inauguration, les gens seront invités à manger.
Día de hoy, ahorita, y van a matar un toro, sí, para preparar la comida, sí, para comer para mañana y para pasar también. Sí, dos días van a dar comida.
Alors, la communauté va tuer un taureau, on va manger du taureau demain, la fête va durer deux jours, va-t-on avoir le droit de boire de l'alcool? Se podrá beber un poco de alcohol?
Ah si, si, van a dar un poco de alcohol.
Un peu d'alcool et on va danser? Vamos a bailar?
Ah si, si, van a empezar a tocar música y van a echar diana, cuando está cortando el listón, va a dar una llana. Et pour l'especial, le président, las abejas. Sí.
On va bien sûr danser une fois que la cérémonie d'inauguration sera terminée. Vous faites une danse avec la tête du taureau, c'est cela? Ustedes hacen un baile con la cabeza del toro? ¿Qué?
Ah, sí, van a bailar también con la marimba y con música del teclado y también el banda de música. Escucha bien bonito también. Sí.
Beaucoup de musiciens vont jouer et ça va être une belle fête.
Chiapas Guerupé, c'était le titre de votre reportage de cette communauté de Canolal au nord du Chiapas, Alain de Valpo. Cette fête, cette inauguration, vous y êtes allé?
Non, malheureusement, la mission nous entraînait. Nous avions d'autres rendez-vous dans d'autres communautés.
Qu'est-ce que Blanca va faire des renseignements qu'elle obtient dans ces villages où elle interroge les habitants? Et qu'est-ce qu'elle fait de ces renseignements?
Tous ces renseignements collectés dans de très nombreuses communautés du Chiapas ont été recensés et ont fait l'objet d'un rapport qui a dû être publié la veille des élections. J'avoue que je ne l'ai pas lu.
Il est transmis aux autorités mexicaines?
Il est transmis aux autorités mexicaines et puis surtout aux ONG internationales comme Human Rights Watch ou Amnesty International.
Quel est le lien de ces communautés villageoises dont on voit qu'elles ont l'air en tout cas assez organisées avec les apatistes?
Alors c'est une des surprises que j'ai eues au Chiapas. Lors du reportage, on apprend que cette communauté fait partie d'une organisation qui s'appelle Las Abejas, les abeilles. Il se trouve que Augustin, qui nous sert d'interprète, est le président de cette association. Et en discutant avec Augustin, je me suis rendu compte que même si on parle beaucoup des apatistes, beaucoup de l'EZLN, il existe d'autres organisations qui, elles, ont choisi une voie beaucoup plus pacifique, qui refusent la voie armée, donc qui n'ont pas d'armée. et mais qui luttent pour les mêmes, exactement les mêmes objectifs. Et les relations entre la Sabejas, par exemple, et les apatistes sont très cordiales, sont même solidaires, puisque la lutte, elle est la même.
Un dromadaire sur l'épaule. Oui, j'en ai deux, trois, quatre. Non, j'en ai deux sur les deux épaules. Un de chaque côté. Très clairement. Assez lourd.
Las perversas, creo que